Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2024. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retrait, play ball. Grande équipe, numéro et un podcast par jour. C'est l'épisode 18, c'est présenté par moi, Mike, et le bien nommé la truitlandaise, Guillaume.
Salut Mike, salut à tous.
Ici, à cause de la pluie et des soucis de connexion, on commence généralement à jouer à partir d'août car on ne reçoit que partiellement le calendrier. Bienvenue chez les Seattle Mariners. C'est quoi cet été 2023 encore? C'est 2022 là! Non, non, Doc, c'est la rediffusion de la saison. Ils n'avaient pas assez d'argent pour changer le scénario, alors ils ont refait exactement le même. Et oui, les Mariners, 88 victoires, 74 défaites, 3e de la division, avec un bilan 543, un hitting plutôt catastrophique, vraiment dernière moitié de la ligue. Par contre, starting rotation, peut-être une des meilleures de la ligue. Bullpen, top 10, large, large, large. Retenons surtout juillet et août où ils font un magnifique 17-19 et 21-6. S'ils avaient maintenu ce rythme, impossible, hein, mais toute l'année, ils auraient eu 116 victoires. Summertime. Allez, sans réelle consistance, en même temps, c'est compliqué de performer. Ils ont été sur courant alternatif toute la saison. Ils finissent en 12-17. C'est vraiment pas bon du tout. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon du tout pour eux. Quelque chose me dit que c'est peut-être une des dernières équipes à ne pas faire la post-season. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont pas fait? Je ne sais pas. Pitching, on l'a dit, top starting, top bullpen de la ligue. Pareil qu'en 2022. C'est une performance de groupe plutôt qu'une individualité. Mais quand t'as des individualités de ouf comme Luis Castillo, 5e au de Saung, 3-3 doigts, 121 DERA plus 219 K en 197 inning pitch, George Kirby, 8e vote Saung, 3,9 de WAR, 100 ERA plus à 120, 172 K en 190 inning pitch. Et en plus de ça, dites-vous bien que starting rotation, ERA plus à 108 aussi pour Logan Gilbert, 93 et 96 pour Bryce Miller et Brian Wu, ce qui veut dire que tu as 3, 2 très bons au-dessus de la moyenne, 1 pile poil au-dessus de la moyenne et 2 juste en dessous de la moyenne, donc très bonne starting rotation. Et alors le pire délire, c'est vraiment le bullpen, parce que le bullpen, les amis, c'est simple. Sur les 5 qu'on a retenus, Sewald, Brash, Topaz, Payer, Munoz, ERA plus 139, 132, 155, 107, 138. Voilà, allez, emballer, c'est pesé, on y va, on passe au bâton. Bah oui, parce qu'au bâton, il y en a deux, on va retenir, c'est Rulio Rodriguez et JP Crawford. 5,3 pour Rulio, 5,1 pour JP Crawford. Ils affichent une OPS plus à 818 pile poil, 128 et 131, c'est l'OPS qui était à 818. Quatrième au vote de MVP, Rulio Rodriguez. 16e pour JP Crawford. Quand t'as deux joueurs dans les votes de MVP, mais que t'es en deuxième partie de tableau en stat offensive, tu comprends pourquoi il n'y a pas eu de playoff cette année. Encore un autre spoiler, parce que, en vrai, le reste était très très nul. Qu'est-ce qu'ils ont fait à trade deadline? Ils ont été se séparer de Pollock et de Mark Mathias pour les Giants. Ils ont été récupérer Josh Rojas, Ryan Bliss et Dominic Canzon, des D-backs pour Paul Sewald, grosse perte quand même. Thornton qui est venu des Blue Jays pour Mason McCoy. Voilà. Après, il y a Rodriguez qui a fait deux fois, qui est rentré deux fois dans l'histoire. Il a fait 17 hits en 4 matchs. Le présent record était de 16 et il datait de 1925. Il a aussi été le premier joueur à avoir 25 home runs et 25 bases volées dans ses deux premières saisons en MLB. Donc c'est assez fou, c'est même complètement dingue. Il a aussi été le deuxième joueur de l'histoire à avoir 4 matchs consécutifs avec au moins 4 hits ou plus. Enfin voilà, du Rulio Martinez dans toute sa splendeur. Il y avait seulement...
c'est pas Pepito son prénom.
Pepito Sanchez, il s'appelle. Ils ont été l'équipe la moins sanctionnée par les pitch clock violations avec les 15. Voilà, on s'en fout un peu, mais c'était un peu marrant. Il y a eu aussi eu le 25 août, un match contre les Kansas City Royals, une série en tous les cas. Je n'arrive plus à lire, Guillaume, tu peux m'aider? Je ne vois plus.
En fait, à ce moment-là, c'est la foule qui est devenue, à la fin du match, la foule est devenue folle, pas seulement parce qu'ils ont gagné ce match, mais surtout parce que depuis la première fois, c'était la première fois depuis 20 ans qu'ils devenaient qu'ils passaient en tête de l'AL
Exact.
West. Donc,
Exact.
voilà, c'était un grand, grand moment pour les Mariners.
Il n'a pas duré longtemps. Du coup, 83 victoires, 79 défaites, 5 de plus, mais au final, pas de playoff. Malgré, jusqu'à la dernière journée, hein, ils étaient en course pour la wild card, mais on vous l'a dit, ils ont fait un mois de septembre à 12-17, donc pas de post-season.
Eh ben, place à la off-season. Leur payroll l'année précédente en 2023, 135 millions de dollars. Prévu pour 2024, bah 135 millions de dollars. C'est exactement le même budget. Ils étaient pas loin d'y arriver la saison dernière. Ils se sentent assez forts, peut-être, pour 2024. Les enjeux et les attentes avant la post-season, bah, c'était compléter le line-up pour avoir une certaine régularité sur toute la saison. On va voir s'ils vont réussir. Ils ont évité l'arbitration avec Justin Topaz, reliever, Trent Thornton, reliever, Logan Gilbert, starter, Ty France, première base, Sam Haggerty, utility player, Luis Urias, infielder, Josh Rojas, infielder. En free agency, ils ont signé Austin Voss, reliever, starter, pour 1 an, Ryan Stanek, reliever pour 1 an, Mitch Garver, catcher pour 2 ans. Ils ont perdu Mike Ford, première base, Teoscar Hernandez, outfielder, Tom Murphy, catcher, Luis Torrens, catcher, Brian O'Keefe, catcher, Easton McGee, starter, Adam Oller, starter, Ryder Ryan, reliever, et Dominic Leone, reliever en trade. Ils ont tradé aux Marlins Darren McGowan, starter. Gregory Santos a été récupéré des White Sox pour Prelander Berroa, un reliever, et Zach Deloach, un outfielder. Samad Taylor, utility player, qui est arrivé des Royals. Jorge Polanco, deuxième base, qui était arrivé de Minnesota. Pour Anthony Descafani, pitcher. Justin Topaz, pitcher. Gabriel Gonzalez, outfielder, et Darren Bowen, starter. Ils avaient avant renvoyé Robbie Ray en starter, et ils avaient récupéré des Giants Mitch Haniger et Anthony Desclafani, qui est parti après. Luke Rayleigh, outfielder, première base, qui est arrivé des Rays pour José Caballero, un infielder. Et enfin, ils ont récupéré des Braves Cole Phillips et Jackson Coward, des pitchers, et ils ont laissé partir Marco Gonzalez, starter, Evan White, première base, et Jared Kelenich, outfielder. Phillips TJ le mois dernier et Coward TJ la semaine prochaine, peut-être.
Bien vu, bien vu.
Sebi Zavala, catcher, et Carlos Vargas, reliever, qui sont arrivés des D-backs pour Eugenio Suarez, troisième base. Luis Urias, infielder, a récupéré des Red Sox pour Isaiah Campbell, un reliever. Blake Hunt, qui arrive des Rays pour Tatem Levins, catcher, Riley O'Brien, reliever, qui a été tradé aux Cardinals, et Cody Bolton, reliever, qui a récupéré aux Pirates. Ça fait un sacré paquet de trades, on va en reparler.
C'est une off-season de OTP, ça.
Non, mais c'est clair, et c'est exactement ça, quoi. Matt Brash et Jackson Coward qui vont starter sur l'injured list. Les Seattle Mariners ont mis leur off-season en 11e position, B-. Ils ont fait plein de choses, mais est-ce qu'ils en sont sortis vraiment meilleurs? Bon, pas vraiment, à part regarder que Polanco qui arrive et qui prend la deuxième base à un endroit où ils avaient vraiment besoin. Mais après, c'est pas non plus exceptionnel. Bah, Dipoto, il a fait du Dipoto, quoi. Il a pris des joueurs, il les a tradés, et c'est exactement ce que tu disais, quoi. C'est, on dirait, une off-season de OTP, quoi. Le farming system 16e pour les Seattle Mariners. Ils ont des bons joueurs, mais qui sont encore jeunes, donc il faut leur laisser le temps de progresser. Et après, ils ont laissé partir quand même pas mal de prospects dans des trades, donc, et surtout des pitchers. Ils vont avoir un manque de bras alors qu'ils en avaient profusion auparavant. Cette année, on ne devrait pas voir de joueurs arriver. On verra bien. Le line-up prévisionnel, catcher Cal Reilly, première base Ty France, deuxième base Jorge Polanco, troisième base Josh Rojas, shortstop JP Crawford, en champ gauche Luke Rayleigh, en champ centre Julio Rodriguez, en champ droit Mitch Haniger, DH Mitch Garver, sur le banc Sebi Zavala, catcher, Luis Urias, infielder, Dylan Moore, utility player, Dominic Canzone, outfielder. En starter, la rotation, Luis Castillo, Logan Gilbert, George Kirby, Bryce Miller, Brian Wu. En setup, Gregory Santos et Ryan Stanek. En closer, Andrés Muñoz. Et dans le bullpen, Gabe Spire, Trent Thornton, Tyler Saucedo, Carlos Vargas et Austin Voss. Qui on doit retenir, Mike, pour la saison qui va venir?
Comment ne pas parler de Julio Rodriguez, en fait? en intro tout de suite. Je pense que ce qu'il avait fait en Rookie of the Year en 2022, on s'était dit attention, le petit step back, c'est toujours difficile de confirmer. Et le mec, il arrive, il est premier dans l'histoire de l'American League et de la National League à avoir 25 home runs minimum et 25 stolen base dans chacune de ses deux premières saisons. Ken Griffey Jr., Ichiro, toute la hype, les mecs l'ont validé, c'est le nouveau franchise player. Cette année, ce qu'on veut de lui, en fait, c'est le titre de MVP. En vrai, on veut qu'il soit un leader sûr, on veut qu'il soit un leader en dehors du terrain, on veut qu'il soit un leader d'image pour les Mariners. Donc, on veut que ce soit le totem des Mariners. Il est projeté top 15 par FanGraph, mais nous, on veut qu'il soit projeté top 1, en fait. On veut qu'il prenne la place des Acuna, Betts, Judge, Otani, etc. On veut qu'il soit dans cette caste-là, en fait.
Ouais, c'est clair, il a pris tellement de place en fait dans cette équipe des Mariners sur les deux dernières saisons que tu peux pas ne pas te dire que s'il continue à la progression qu'il a eu déjà sur ses deux premières saisons, il est obligé, enfin on l'attend vraiment à la bataille dans les trois, enfin sur le podium du MVP, c'est pas possible autrement quoi. Après avec lui en plus, il y a un mec qui a éclos cette année qui est une grosse surprise. C'est pas le franchise player, c'est pas le mec qui va te gagner des MVP, mais avec ce qu'il a fait la saison dernière, s'il refait la même chose, on va parler de lui hein, au niveau All-Star, bah c'est JP Crawford quoi, parce que la saison dernière c'est sa meilleure saison en carrière, c'est la première année où il explose vraiment au bâton et où vraiment la franchise peut s'appuyer sur lui. On savait qu'il était bon défenseur, mais on doutait encore de ses capacités au bâton. C'est sûrement aujourd'hui, si c'était pas le, c'est un des shortstops les plus underrated de la ligue. Et je pense qu'il va falloir qu'il s'appuie dessus parce que c'est les deux du line-up qui sont vraiment importants.
Ouais, puis ce qui est fou aussi pour le JP Crawford, c'est que sa défense depuis 2 ans, elle a eu tendance à baisser. Mais à chaque fois que ça a baissé, ça a été pour améliorer son bâton. Et en vrai, là, ce qu'il a fait l'an dernier, il a vraiment été l'encre de cette équipe et une espèce de phare dans la nuit parce que plus personne n'y croyait à un certain moment. Voilà. Donc oui, il va être très très fort. Et le problème, en fait, autour de ça, et c'est là où on va déjà rentrer dans le dur concernant le line-up. C'est que passé ces deux mecs-là, le 1 et le 2, bah derrière, t'as quand même beaucoup de mecs sur lesquels tu te poses des questions. Enfin, la suite de l'alignement, c'est Polanco, c'est Carver, c'est Cal Riley, qui est receveur, donc on va voir combien de matchs il va jouer. C'est Mitch Haniger, c'est Dominic Canzon, Prospect, c'est Ty France et c'est Josh Rojas. Mais si on commence déjà par Mitch Haniger, c'était une catastrophe l'an dernier, hein. WRC Plus à 73. La dernière fois qu'il a fait une excellente saison, c'est 2018. Il a fait une bonne saison en 2021, mais sinon, c'est vachement sur courant alternatif. Donc, ils vont le récupérer. Il frappe que 6. Le line-up des Mariners, quand tu vas devoir affronter des rotations comme celle des Rangers, des Astros, des Angels, enfin, voilà, des rotations, quoi, tu te rends compte que ça va être chaud.
Mais aujourd'hui, en fait, on peut pas parler du line-up sans parler des trades qu'il y a eu parce que, et les trades, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, en fait, à part quelques postes où tu t'es amélioré, tu prends Polanco en deuxième base, c'est meilleur, en fait, en défense, qui est pas mauvais au bâton, Riley en champ gauche et Garver en DH, t'en as d'autres où tu te poses vraiment des questions, quoi. Haniger, que tu vas mettre en champ droit, tu viens de le dire, Josh Rojas en troisième base, qui vient prendre la place de Eugenio Suarez, t'as des mecs qui arrivent et qui repartent aussitôt, mais on en reparlera après parce que c'est surtout dans la rotation, c'est de Sclafani. Mais ouais, en fait, c'est pareil, quand tu regardes un petit peu les projections sur le line-up, t'as deux mecs vraiment, on disait JP Crawford, Julio Rodriguez, t'as un troisième qui est Kyle Riley qu'on met dans les 100 premiers, mais c'est surtout pour sa défense. Et après, tout le reste, mais c'est loin, quoi. T'as pas l'impression que ton line-up, tu l'as vraiment fait progresser sur cette off-season. Il était déjà pas très bon la saison dernière. Il est encore moins bon, donc voilà. Après, c'est pareil, tu t'es séparé. Alors, t'as laissé partir Robiret parce que tu estimais que t'avais déjà assez de joueurs au niveau de la rotation. Et la rotation, en vrai, quand tu la regardes, elle fait super peur, quoi. Elle fait vraiment
là, c'est vraiment peur. C'est vraiment le point positif. C'est-à-dire que autant il y a eu beaucoup de moves, et beaucoup de trades, et beaucoup d'échanges, et beaucoup de signatures et de non-signatures à la off-season, où tu te dis qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce line-up. Mais au niveau de la rotation, mon ami, on va parler d'une doublette, la doublette Castillo-Kirby. Mais en vrai, tu peux y mettre Logan Gilbert aussi. Hein. C'est oui. Un trio. Hein. C'est du 1-2-3. Hein. Des mecs qui ont 31 ans, 27 ans, 26 ans, des mecs qui sont tous projetés top 25, voire top 10 pour Castillo. T'as un 1-2-3 punch, mon ami, mais oh là là, c'est-à-dire que tu vas jouer là-dessus pour que quand t'arrives ta grosse série face à tes concurrents, c'est eux que t'alignes en fait. Parce que c'est vraiment eux que t'alignes. À E3 l'an dernier, c'est 11 de War. C'est autant, ouais, c'est... mec, que tout le pitching staff des Pirates, Angels, Mets, White Sox, Royals, Rockies, Nationals et A's. Tout le pitching staff, rotation, bullpen inclus. Bon, s'ils font pas la post-season avec ça, c'est que ou le line-up ne s'est pas amélioré, ou alors que eux ont fait beaucoup moins bien. Parce que franchement, quoi, et puis on n'a pas parlé des deux autres, mais Bryce Miller et Ryan Woo, c'est du top 100 aussi, quoi. C'est des prospects qui sont déjà projetés top 100, parce que ce qu'ils ont montré avant d'arriver, c'est déjà énorme. Et en plus de ça, n'oublions pas quand même qu'ils ont un bullpen qui, lui, par contre, très honnêtement, c'est pas que c'est un problème, mais si tu te poses des questions.
Bah ouais, parce qu'en fait, sur les 8 relievers, t'as 4 arrivés. Sur le papier, ils sont moins forts que la saison dernière. Après, c'est peut-être qu'une impression. Il y a le retour de Matt Brash qui est très attendu. Mais en vrai, quand tu regardes, t'as Andrés Muñoz et Gabe Spire qui sont projetés dans le top 100. Après, tout le reste, c'est au-delà du top 200. Alors, quand tu viens d'une saison où t'étais top 5, enfin ouais, ou presque un tout petit peu en dessous du top 5 dans ton bullpen, et que là t'annonces ça, en vrai, quand tu vois les chiffres, quand tu vois les projections, ça fait pas rêver. C'est pas la partie qui fait le plus rêver. En fait, quand tu regardes sur l'ensemble de l'effectif qui est projeté pour la saison prochaine chez les Mariners, si t'enlèves la rotation, le reste, tu te demandes. Enfin, si tu regardes que ça, tu te dis, ouais, mais c'est une équipe de milieu de tableau, quoi. Pas plus, quoi. Enfin, je vois pas comment elle pourrait faire quelque chose de formidable, quoi.
Ouais, puis c'est des mecs qui avaient quand même. Qui avait Seawalt, qui ont eu Diaz, enfin, ils ont un bullpen qui est historique, qui a été leur grande force, hein, sur les années précédentes. Et que déjà l'année dernière, on a senti une petite baisse. Ils étaient top 10, ils ont quand même été très très bons, ne mentons pas. Mais ils commencent à perdre des gars, il y a des blessures. Voilà, tu te poses des vraies questions. Topa non plus n'est plus là. Enfin, il y a plein de mecs qui sont ou blessés ou qui sont partis. Clairement, le bullpen, il s'est affaibli. Et le truc, c'est que avec Jerry DiPoto, tu te dis que ça peut arriver à tout moment. Enfin, ils sont quand même dans la race pour la wild card à peu près à la fin octobre, et il arrive à trader Paul Sewell, par exemple, tu vois.
Ouais, c'est
donc,
clair.
Tu te dis, si tu y es, non, tu le fais pas, ça. Tu le fais pas. Et il le fait, donc il y a des. On se pose vraiment des questions sur ce qui va se passer l'an prochain, enfin cette année en tous les cas. Et d'autres questions qu'on peut se poser, Guillaume, c'est quels sont les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion, à tort le site de Paris Sportif, qui vous assure de perdre de vos ailes. Alors, Guillaume, post-season ou pas post-season pour les Mariners en 2024?
J'ai peur que ça fasse pas la post-season à nouveau. La division, elle est relevée et ça va être compliqué pour eux. Je les vois pas être terminés au-delà de la troisième place. Et je pense qu'on risque d'être dans les mêmes eaux, dans les 80. Moi, je mettrais peut-être 85, peut-être un petit peu moins de victoires que la saison dernière. Je mettrais 85 victoires cette année, mais je les vois pas au-delà.
Moi, clairement, ils ont une rotation qui me fait hyper peur. Dans le bon sens du terme, mais ils ont un line-up où je me dis, si ça repose uniquement sur Rodriguez et sur Crawford, ça risque de faire un petit peu court. Et surtout, moi, ce qui me fait me dire qu'ils vont finir que troisième, c'est parce que déjà devant, ça paraît quand même au-dessus. Et puis derrière, ça paraît quand même beaucoup plus faible. Donc, je les vois troisième. Moi, je les exclue pas totalement de la wildcard, parce que dans une saison où, encore une fois, plus d'un tiers des équipes vont en post-season, je pense qu'ils ont un petit truc à faire si jamais ils arrivent à être performants face aux autres mauvais de leur équipe. En tous les cas, en parlant de mauvais, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Alors, Guillaume, on se réécoute demain.
Avec le plus grand plaisir. Miguel, bate, jaque, mate. Miguel Bate, jaque mate. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Revisa sus guías y acompáñenos esta noche de show. Soy Miggy, el salsero que da la pelea.
demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear, empuje otra carrera.